Je ne sais pas où vous êtes, ni même qui vous êtes, ni même quel jour vous écoutez cet épisode. Mais s'il a été publié le 26 mars 2024, ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a tout juste 40 ans, le 26 mars 1984, Ahmed Sékou Touré, qui a été le premier président de la République de Guinée, trouvait la mort dans un hôpital de Cleveland, aux États-Unis. 40 ans après son décès, eh bien le héros historique de l'indépendance de 1958 continue de diviser et redevient même ces dernières années dans le pays un sujet politique. En fait, les historiens peinent à écrire son histoire nationale, une histoire qui fait appel à deux mémoires. Mais sont-elles réconciliables ? De tout cela, je m'apprête à en discuter avec Laurent Corot, qui est rédacteur en chef au service Afrique de RFI. Un habitué de Témoins d'actu, mais surtout un connaisseur de cette histoire. Il a été l'un des coordonnateurs des travaux du livre « Mémoire collective, une histoire plurielle des violences politiques en Guinée ». Physiquement, l'homme en impose, comme on dit. Allez faire un tour sur Internet, les photos d'Ahmed Sékou Touré ne manquent pas. Il avait aussi le verbe « haut ». Là encore, vous pourrez écouter sur le site de RFI par exemple, ce son d'archives dans lequel en 1958 il interpelle le général de Gaulle sur la transformation de l'empire colonial français, d'où l'appellation « héros de l'indépendance ». L'autre facette du personnage est plus sombre. Ahmed Sékou Touré, c'est aussi l'homme qui a été le chef d'un système répressif. Bonjour Laurent.
Et bonjour Alexandra.
On va parler donc d'une histoire qui est très très présente en Guinée. Alors moi j'ai quand même besoin d'être sûre d'avoir tout en tête. Est-ce que tu peux me redire qui est Sékou Touré en quelques mots ?
Je crois que le plus important à retenir, c'est qu'il a été le premier dirigeant de la Guinée indépendante de 1958 jusqu'à sa mort en 1984. Il a été un président qu'on pourrait qualifier d'autoritaire, proche des autres pays révolutionnaires du continent africain, dans un pays qui, lui, se sentait assiégé. Et donc, il a mis en place un système de contrôle et de répression très dur, dont je pourrais te parler tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'il faut savoir vraiment de la vie de ce premier président ?
Il faut peut-être d'abord retenir qu'il est né officiellement vers 1922 à Farana, sur les rives du fleuve Niger, dans une région qu'on appelle la Haute-Guinée. Et puis, rapidement, après avoir accédé à ses premiers emplois, notamment au poste, eh bien, Sékou Touré embrasse le combat syndical. Il entre ensuite en politique au sein d'un des grands partis des indépendances, un parti fédéral, le RDA, le Rassemblement démocratique africain. Et puis, il y a aussi la date qui a marqué l'histoire, celle du 28 septembre 1958. C'est la date à laquelle la Guinée a rejeté, lors d'un référendum, la communauté française, qui était donc une sorte de réforme de l'empire colonial français. Et cette date, elle est très importante en Guinée. Elle joue un rôle fondateur. C'est à la suite de ce vote que la Guinée va ouvrir le mouvement des indépendances en Afrique subsaharienne francophone. Et sans trop s'arrêter sur les nuances de l'histoire, effectivement, les partisans de Sékou Touré le dépeignent comme l'homme qui a dit non le 28 septembre 1958. Il y a aussi une date à retenir, celle du 22 novembre 1970. C'est le jour là où le pays est attaqué par une force qui regroupe des opposants guinéens et des soldats portugais. Et alors à ce moment-là, le parti État qui dirige la Guinée lance une vague d'arrestations qui va accentuer ses tendances au contrôle et à la répression. Et puis enfin, la date de la mort de Sékou Touré, le 26 mars 1984. Comme tu le disais, il décède dans un hôpital de Cleveland, aux États-Unis.
Quand on a préparé cet épisode, Laurent, tu m'as dit Ahmed Sékou Touré, c'est un personnage très intéressant, mais clivant, en tout cas qui, en Guinée, déclenche des sentiments très divergents. Et puis tu m'as dit, écoute le son dans lequel il répond au général de Gaulle, ça tu viens d'en parler, mais écoute aussi celui-là.
La Guinée, à l'avant-garde de ce combat, assumera ses responsabilités, toutes ses responsabilités militantes. Camarades du PDG, militants en uniforme et sans uniforme, partout, faites état de vigilance, de fermeté révolutionnaire. Surveillez autour de vous les complices éventuels de l'impérialisme pour les déceler et les écraser en même temps que les mercenaires venus dans les bateaux étrangers. Car la réaction intérieure fait corps avec la réaction extérieure. prêt pour la révolution, l'impérialisme à bas, le colonialisme à bas, le néocolonialisme à bas, vive la révolution.
Pourquoi, Laurent, ce son, il est intéressant ?
Alors, il est intéressant parce que ce son, en fait, il nous permet de voir un autre Sékou Touré que celui qu'on a l'habitude de présenter. Un Sékou Touré plus nuancé, plus complexe que celui qui a dit non à De Gaulle. Ce Sékou Touré de la fin 1970, en fait, c'est un homme qui est devenu une véritable figure de proue du camp progressiste. Il a posé maintenant son discours panafricain. Il a lancé ses politiques sur la promotion des femmes guinéennes ou la défense des cultures africaines. Mais c'est aussi un homme qui se sent visé par des complots de l'étranger. Alors, certains imaginaires, certains réels. Et le débarquement du 22 novembre 1970, qui vient d'avoir lieu et qui l'amène à venir au micro ce jour-là, lui, il est bien réel. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'une force portugaise, avec des éléments de l'opposition armée guinéenne, sont venus à Conakry pour essayer notamment de le renverser. Ce son, il est aussi intéressant parce que justement, cette date du 22 novembre 1970, elle marque une sorte de point de rupture, de basculement dans l'histoire de la Guinée. C'est vraiment le moment où le pays entre dans une vague de répression qui va s'abattre dans les mois qui suivent.
Tu parles de bascule, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Ahmed Sékou Touré, il se transforme, ça devient un autre homme ?
Alors, je ne dirais pas qu'il se transforme, je dirais que lui et la révolution guinéenne, de manière générale, finalement, se radicalisent. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'après le débarquement des éléments portugais et des éléments de l'opposition guinéenne, on voit les arrestations se succéder en Guinée à un niveau qu'on n'avait jamais atteint dans le pays. C'est ce que les autorités ont appelé la traque de la cinquième colonne, la chasse aux traîtres. Et au travers de la radio, au travers du quotidien d'État, eh bien, les Guinéens vont apprendre au fil des jours l'arrestation de telle personne, de tel responsable, qui livre alors une confession enregistrée. Chacun décrit sa participation supposée à un scénario extrêmement complexe où on va croiser des réseaux nazis, les services français, la CIA. Et donc, dans le cadre de ces confessions, eh bien, les supposés traîtres doivent dénoncer des complices et on les envoie dans les camps guinéens comme le camp Boiro.
Ça, c'est pour l'histoire, Laurent. 40 ans après sa mort, dans la Guinée d'aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a toujours une vraie fracture.
Oui, très clairement, même si les personnes qui ont vécu cette période, en fait, elles sont de moins en moins nombreuses les années passant. Il y a, je crois, une transmission quand même aux générations suivantes de cette mémoire divisée. Tu as d'un côté ceux qui ne veulent retenir que le militant anticolonialiste, le défenseur de la dignité africaine, la face lumineuse, finalement, charismatique de Sékou Touré. Et puis de l'autre, il y a ceux qui ne veulent voir que le premier responsable d'un système fermé et répressif, la part d'ombre, finalement, de ce personnage historique. Et à un moment, si tu veux, où les idées de souveraineté, de panafricanisme sont réinvesties par de nombreux jeunes sur le continent, ces jeunes se cherchent de manière tout à fait naturelle des héros, et ils en trouvent un en Sékou Touré, au risque donc de l'idéaliser et donc d'oublier toute une partie de ce qu'il a été. Et puis, il y a aussi, d'un autre côté, les familles des victimes qui réclament qu'on reconnaisse ce qu'ont enduré leurs parents. Elles ont aussi un regard particulier, puisque pour elles, Sékou Touré a été avant tout un tyran.
Et le pouvoir en place, on rappelle qu'un coup d'État a été mené en septembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya, que les militaires sont toujours au pouvoir. Ils ont dit d'ailleurs récemment qu'ils y resteraient jusqu'en 2025. Ces militaires, est-ce qu'ils s'emparent de cette question de mémoire autour de Sékou Touré ?
Alors oui, on peut dire qu'ils s'en emparent. Ils ont par exemple décidé de donner à l'aéroport de Conakry le nom d'Ahmed Sékou Touré. Le colonel Mamadi Doumbouya, lui, eh bien, il multiplie les marques de respect vis-à-vis du défunt président ou vis-à-vis de sa famille. Ce que ne comprend pas l'association des victimes du camp Boiro, qui craint en fait de voir le pouvoir de transition oublier l'une des deux mémoires de Sékou Touré.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, se revendiquer de ses coups, ça peut devenir un argument politique ?
Oui, puisque quand on construit un héros, eh bien, on peut ensuite dire qu'on en est l'héritier politique.
Alors on imagine évidemment au travers de tout ce que tu viens de me dire que tout ça, ça ne facilite pas le travail des historiens guinéens. Est-ce qu'ils parviennent malgré tout à apaiser ces luttes de mémoire ?
Non, je dirais même qu'en fait ils sont otages de ces luttes de mémoire. Très peu d'historiens guinéens ont pu travailler sur cette partie de l'histoire du pays. Les travaux qui sortent de l'université guinéenne se penchent majoritairement sur la période qui précède, sur une histoire plus ancienne et du coup une histoire moins polémique. On l'a bien senti, si tu veux, quand la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, la FIDH et RFI, avec des universitaires, ont publié en 2018 un ouvrage qui s'est intitulé « Mémoire collective », où l'idée, justement, c'était d'essayer de rassembler des mémoires différentes dans un même ouvrage pour essayer d'avoir un récit partagé.
On sent bien, au travers de tout ce que tu viens de me raconter, Laurent, que la plaie, elle n'arrive pas à se refermer.
Oui, quand on voit le niveau de colère ou le type de réaction qu'on peut croiser simplement alors qu'on est en train de parler d'histoire, on voit bien que c'est quelque chose qui est encore très vivace et qu'on est face à une mémoire qui est toujours meurtrie.
Éditorialement, comment on essaye de rendre compte de tout cela sur l'antenne de RFI ?
Eh bien, nous essayons de raconter ce sécoutouré complexe au double visage au travers de sons, de vidéos, d'articles sur notre site internet. Mathias Reynal, par exemple, notre correspondant à Conakry, a enregistré des interviews qui illustrent bien cette double mémoire et cette difficulté des historiens guinéens à raconter l'histoire de leur pays. On peut aussi découvrir sur les réseaux sociaux un diaporama que je trouve très émouvant avec un photographe qui, en 1984, a été désigné pour aller photographier l'ouverture du camp Boiro. Et donc, il commente des images qu'il a sélectionnées pour nous et qui illustrent l'ouverture de ce camp emblématique de la répression des années Sékou-Touré.
Merci Laurent d'être passé me raconter tout cela dans Témoins d'actu. Et quelle que soit votre manière de vous informer, que ce soit à la radio, sur le site internet, sur les réseaux sociaux, RFI est là pour vous raconter cette histoire. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite.